Une lettre perdue par Alfred des Essarts. Un de ces petits hôtels qui, au siècle dernier, se pressaient contre la terrasse des Feuillants, était éclairé comme pour une fête. C'était par une belle nuit d'été. Les croisées ouvertes laissaient s'échapper un bruit confus de voix, d'éclats de rire et de musique. Il y avait Médiane chez le baron de Trigny, qui, la veille d'aller occuper en Angleterre un poste diplomatique, avait voulu rassembler encore une fois ses amis de jeunesse, ses compagnons de folie. Au moment où les premières lueurs du jour teignirent l'horizon, M. de Trigny venait de jurer une guerre impitoyable aux maris britanniques en vertu de l'esprit de nationalité. Ses amis s'engagèrent de leur côté à donner constamment la préférence au dieu Cupidon sur son frère Hyménée. Sophie Arnoux, digne présidente du banquet, reçut les serments avec une gravité toute magistrale. Un des convives, fatigué de ce tumulte, de ce cliquetis d'esprit, après avoir été lui-même le héros le plus brillant de la fête, se glissa doucement hors de l'hôtel sans vouloir faire avancer son carrosse de peur d'être retenu trop longtemps. « Parbleu, se disait-il, j'ai le droit d'être harassé. Hier encore, j'ai chassé à court dans les bois de Chantilly. Ces messieurs achèveront de s'amuser sans moi. Si l'on peut appeler amusement des orgies où tout le monde parle à la fois, où l'on joue un jeu d'enfer, où l'on boit trop pour bien boire, où souvent des propos banins s'enveniment et ont pour conclusion de grands coups d'épée. Et mais me voici furieusement moraliste, j'ai tort. La philosophie moderne n'exclut pas la bonne chère. Et les soupers fins du baron d'Holbach ont aidé puissamment au succès de l'encyclopédie. Ah ça, où diable ce buteur de jasmin a-t-il enterré mon carrosse? Je gage qu'il dort sur le siège en compagnie de Bourguignon, mon gros cocher. Cette canne va les tirer de leurs rêves. » Ayant aperçu au coin d'une ruelle sa voiture qui stationnait, le marquis Armand de Montréal se dirigea de ce côté. Tout à coup, il s'arrêta pour ramasser une lettre non décachetée qui gisait à terre et dont le pli était élégant. Un larron ne s'empare pas plus avidement d'une bourse garnie d'or. Le jour peu avancé ne permettait pas au marquis d'examiner le contenu de sa trouvaille. Avec l'impatience de la jeunesse, Armand fit presser le pas de ses chevaux, et pendant le chemin, c'est-à-dire pendant 10 minutes, il tourna et retourna 1000 fois cette lettre, d'où s'exhalait un parfum décelant une femme distinguée. À peine arrivé à son hôtel, n'écoutant que l'instinct de la curiosité et commettant une indiscrétion que les vapeurs du vin de champagne légitimaient à ses yeux, il rompit le cachet et lut ce qui suit. « Cher monsieur, la mesure de mes chagrins est comblée. Mon tuteur, non content de m'imputer à crime les goûts les plus innocents, de me reléguer loin du monde, de me défendre même la lecture et le clavecin, mes uniques distractions, veut absolument m'unir à ce vilain notaire que vous connaissez. Son opiniâtreté à poursuivre ce projet de mariage n'a d'égal que l'aversion qu'il m'inspire. S'il me faut épouser un vieillard intéressé, jaloux et méchant, autant vaut mourir. J'ai recours à vous, monsieur, vous le meilleur, le plus généreux des hommes, vous l'ancien ami de mon père, et qui, par un funeste excès de délicatesse, avez refusé d'accepter le soin de ma tutelle. Souvent, vous m'avez proposé un asile dans votre château. Les circonstances ne me permettent plus de refuser vos offres. Votre âge, votre honorable réputation, détruiraient d'avance toute interprétation injurieuse pour nous deux. Demain, à 11 heures du soir, je pourrai sortir par la petite porte du jardin qui s'ouvre sur la rue des Postes, que votre voiture se trouve à l'impasse des vignes. Cachée sous une mante de couleur sombre, je franchirai seul ce court espace et grâce à vous, je fuirai une prison qui m'est devenue insupportable. Votre dévouée, Lucile. » Cette lettre produisit sur le marquis une impression plus forte que si elle eût été adressée à lui-même. C'était un roman à la fois mystérieux et réel, paré du charme de l'imprévu, réunissant toutes les conditions du genre. Une héroïne jeune, persécutée, probablement charmante, un tuteur despote renouvelé des barbes bleues du Moyen-Âge, un futur affreusement laid et pourvu d'une âme digne de son visage. Quelle magnifique occasion pour un noble paladin de prendre la défense de la beauté opprimée. Évidemment, le ciel l'avait choisi, lui, marquis de Montréal, et destiné à accomplir cette action courtoise. La fugitive ne pourrait manquer d'accepter avec joie l'échange que le hasard allait lui procurer. À la place d'un ami respectable, un merveilleux de mari. Au lieu d'exhortation paternelle, une conversation vive et passionnée. délicieux imbroglio. Et puis, la suscription ne se trouvait pas sur la lettre, circonstance qui diminuait d'autant les objections et les reproches que la conscience de M. de Montréal eût pu lui faire. Son parti fut donc bientôt pris. Il craignait d'abord que le domestique qui avait laissé tomber la lettre ne prévint sa maîtresse de ce fâcheux contretemps. Mais il se rassura en pensant que les gens de cette espèce n'avouent jamais leur faute qu'à la dernière extrémité. Armand passa donc sa journée entre des rêves enchanteurs et les soins multipliés d'une toilette raffinée. Le soir, à l'heure marquée, M. de Montréal était au lieu du rendez-vous. Il avait rabattu sur ses yeux un chapeau à large bord et jeté sur ses épaules un manteau couleur de muraille. Une forme aérienne se dessina dans l'ombre. C'était une femme qui marchait d'un pas rapide en tournant fréquemment la tête. Armand se porta vivement à sa rencontre, lui présenta la main et la fit monter dans son carrosse où il s'assit devant elle. Tout cela s'était passé en quelques instants et sans qu'une seule parole eût été prononcée. Mais dès que la voiture, lancée rapidement, eut laissé derrière elle le dôme de l'église de Sainte-Geneviève, Lucile s'abandonna ainsi à l'effusion de sa reconnaissance. « Que vous êtes bon, monsieur, d'avoir risqué une telle démarche, afin de m'arracher à mes persécuteurs. Ma demande aurait étonné tout autre que vous. Mais j'ai compté sur votre indulgence. Vous m'excusez, n'est-ce pas? Il est si naturel de chercher à s'affranchir. Libre, je suis libre. Quand on possède un tel bonheur, peut-on rêver un plus grand? Nous allons à votre château d'Argenteuil, n'est-il pas vrai? Et je vais voir, je vais embrasser votre femme, cette excellente madame de Martigny. Mais parlez donc, vous devez penser que je suis babillarde. » Il en coudait au marquis de troubler la joie de cette jeune fille. Il savait que le son de sa voix produirait l'effet d'une fausse note dans un concerto d'instruments. De son côté, Lucile remarquait avec un certain étonnement que son respectable ami sentait furieusement l'ambre et la vanille, et comme il lui pressait la main, elle trouva qu'il avait les doigts bien chargés de bagues. Pour esquiver un peu les difficultés de la position, il se mit à parler à voix basse. Lucile ne s'y trompa point, elle jeta un cri et s'élança vers la portière. Armand la retint et dit d'un ton respectueux « Pardonnez-moi, mademoiselle. Laissez-moi, monsieur. Ne vous effrayez pas, je vous en conjure. C'est un affreux complot. Qui êtes-vous? Mon Dieu, je suis perdu. Vous êtes sauvé. Regardez-moi. Ai-je l'air d'un brigand? Et croyez-vous qu'un homme de qualité, le marquis Armand de Montréal, soit capable d'abuser de la faiblesse et du malheur d'une personne aussi intéressante que vous? Eh bien, si, comme vous le prétendez, vous êtes un gentilhomme, ramenez-moi chez mon tuteur. Je préfère le sort le plus triste au déshonneur qui m'attend après un pareil scandale. Vous ramener, ce serait de la barbarie. Vous auriez trop de regrets si j'écoutais ce vœu imprudent. Mais enfin, que voulez-vous donc, monsieur? Vous mettre en lieu de sûreté. Vous voulez me perdre? Vous croyez que je suis une fille de rien, une petite bourgeoise, qu'on prend et qu'on laisse comme un jouet? Sachez que mon père se nommait le baron de Verneuil. Pauvre père, il m'aurait défendu. Mademoiselle, reprit Armand avec une nuance plus marquée de respect, mais sans abandonner le ton de la galanterie. Vos terreurs sont injustes. Vous cherchez un ami de 60 ans? Je vous en offre un de 25, qui a de plus une épée à votre service. Perdez-vous donc tant au change? Vous comptiez sur les efforts de l'amitié. Vous pouvez attendre bien davantage du dévouement aveugle de l'amour. Vous m'aimez, vous, monsieur? Oui, je connais vos malheurs. J'ai entendu votre voix harmonieuse, et je viens d'entrevoir votre charmant visage. Mille sentiments se partageaient le cœur de Lucile. Tantôt sa position l'épouvantait, tantôt elle était rassurée par le ton exquis de M. de Montréal. La surprise, l'indignation se succédaient sans relâche dans sa pensée. Elle s'efforçait de récuser la bonne foi du marquis, et en même temps elle eût été heureuse d'y croire. Accablée d'émotion, elle se mit à verser des larmes abondantes. Armand, attendri, s'assit à côté d'elle et dit d'une voix affectueuse, en lui prenant une main qu'elle abandonna sans résistance, « Pauvre enfant, je vous fais donc bien peur. Ayez meilleure opinion des hommes. Vous êtes près de moi sans défense. Il faudrait que je fusse un lâche pour profiter de votre faiblesse, pour abuser de votre malheur. Le hasard seul a mis votre lettre sous mes yeux. Je l'ai trouvé ce matin dans une rue où un domestique maladroit l'avait laissé tomber. Le drôle ne se sera pas vanté de son étourderie. et vous comptiez sur le succès de votre démarche. L'aventure me parut piquante. J'y vis une nouvelle édition des Folies Amoureuses, un nouvel Albert à tromper. D'ailleurs, nos autres chevaliers de l'œil de bœuf, disciples de l'incomparable Richelieu, nous avons pour principe de ne jamais reculer devant les difficultés d'une entreprise. Nous adorons l'inconnu et notre patrimoine se compose surtout des terres d'autrui. Mais maintenant, vous me trouverez aussi respectueux que j'eusse pu être téméraire. J'ai du crédit, des amis puissants. Nous déjouerons la trame concertée entre votre tuteur et son digne acolyte. En attendant, une maison de campagne que je possède près de Saint-Gratien vous offrira un asile. Là, je vous confierai aux soins de Véronique, ma bonne vieille nourrice. Vous serez maîtresse absolue dans ce modeste domaine et vous aurez même le droit de ne pas recevoir mes visites. Lucile ne répondit rien. À ses sanglots avaient succédé de petits soupirs. La voiture était loin de Paris. Déjà, elle avait franchi la plaine Saint-Denis et pris à gauche la route qui conduit à la forêt de Montmorency. La nuit était splendide. Des myriades d'étoiles scintillaient dans l'immensité des cieux, tandis que la lune versait les flots paisibles de sa lumière sur le feuillage des arbres qui semblaient fuir avec rapidité. Fatiguée de cette longue course, Lucile avait fini par s'endormir comme une colombe au bord de son nid. Sa charmante tête, dérangée par les secousses du carrosse, vint peu à peu toucher l'épaule du marquis et s'y appuyer. Celui-ci, pénétré d'une indicible émotion, contemplait en silence le sommeil angélique de la jeune fille. Jamais spectacle brillant, jamais bal de cour n'avait eu autant d'attrait pour lui et ce fut avec un vif déplaisir qu'il vit la voiture s'arrêter devant la grille de sa maison de campagne. Comme il l'avait annoncé à Mademoiselle de Verneuil, celle-ci fut l'objet des soins empressés de Dame Véronique, qui ne se permit aucune question au sujet de la jolie Parisienne, mais ne put s'empêcher de s'écrier en joignant les mains « Seigneur Dieu, la belle demoiselle, qu'elle est docile, qu'elle est courtoise !» Le marquis partit le lendemain muni des instructions de Lucile et parfaitement informé de tous les méfaits de Laurenceau, le tuteur de Mademoiselle de Verneuil, ancien notaire aux ongles crochus qui n'avait pas été fâché de mettre à profit l'inexpérience de sa pupille et qui croyait qu'elle ne s'apercevait de rien parce qu'elle ne se plaignait jamais. Comme Armand ne voulait pas que l'ex-tabellion envoyât la maréchaussée à la poursuite de Lucile, ou la fit afficher au coin des carrefours ainsi qu'un objet perdu, il se hâta de faire sa visite à Laurenceau. Celui-ci se trouvait dans son cabinet avec son ami intime, M. Bourdin, le futur qu'il avait destiné à Mademoiselle de Verneuil. On eût dit deux de ces dragons en porcelaine blanche et bleue, aux oreilles dressées, aux yeux arrondis, aux gueules armées de dents menaçantes que nos pères plaçaient jadis sur leur cheminée. Pour la lourdeur, pour l'expression d'astuce et de dureté, l'un n'avait rien à envier à l'autre. Si la sympathie les avait unis, le hasard semblait les avoir fait jumeaux. Chacun d'eux tenait une tabatière et leur nez était également surmonté de bésigles. À l'aspect du visiteur, ils échangèrent un regard méfiant, se figurant sans doute que c'était un fils de famille pressé du besoin d'argent, qui venait, à gros intérêts, recourir à leur bourse. Armand, prenant la parole avec calme et dignité, les eut bientôt informés du motif qui l'amenait. Il se garda bien de révéler la circonstance de la lettre par lui trouvée, et se présenta comme un ami franchement dévoué à Mademoiselle de Verneuil. Après avoir déclaré que la jeune fille était en lieu de sûreté, et qu'il ne fallait pas songer à découvrir sa retraite, il proposa de la ramener aux conditions suivantes. Lucile irait habiter chez Madame de Martigny, femme de l'un des plus honorables conseillers au Parlement. Son tuteur cesserait de lui présenter comme un épouvantail l'alliance de l'espèce de juif nommé Bourdin. Celui-ci prouva par une laide grimace que l'allusion lui semblait par trop directe. Moyennant ces concessions, Mademoiselle de Verneuil fermerait les yeux, lors de sa majorité, sur les comptes de tutelle qui, disait-on, étaient passablement embrouillés. Maître Laurenceau n'était pas de ces hommes que la bonne éducation a instruit à modérer leurs passions. Heureux de pouvoir mettre sa fureur sous le couvert des mœurs, il éclata en invectives contre le marquis, le traita de suborneur, de ravisseur, de calomniateur. S'écria qu'un ancien notaire bien connu pour sa probité au palais de justice et au Châtelet était à l'abri des insultes d'un fat et que toute sa compagnie embrasserait sa défense. « Un rapt !» répétait-il sans cesse en se frottant les mains. « Ce n'est pas une petite chose. Plus d'un a été pendu pour moins que cela. Détournement de mineurs, peste. Mon beau monsieur de... Votre nom, s'il vous plaît ?
Le marquis de Montréal,
dit Armand avec fierté.
Monsieur le marquis de Montréal, vous aurez sous peu de mes nouvelles.
Je ne suis pas votre serviteur. Armand leva dédaigneusement les épaules et s'éloigna.
Avant de rentrer chez lui, il alla voir monsieur de Martigny, lui raconta sincèrement tout ce qui s'était passé, et subit patiemment une remontrance faite dans les termes les plus mesurés par ce digne magistrat, qui blâma aussi le coup de tête de Lucile et déclara que, pour sa part, il ne se serait point associé à un projet de fuite qu'une jeune fille et un mousquetaire avaient pu seuls trouver praticable. Il ne dissimula point que cet événement était de nature à entraîner de graves conséquences, que Laurenceau et Bourdin avaient du crédit, des amis puissants, et n'étaient pas des adversaires à dédaigner. Il termina en promettant au marquis d'aller le voir le soir même pour lui communiquer le résultat de ses démarches. Au moment où M. de Montréal rentrait à son hôtel, il vit la cour garnie d'exempts de police qui, sans vouloir écouter ses représentations, se saisirent de lui en vertu d'une lettre de cachet, le firent monter dans une voiture de place et le conduisirent à la Bastille. Ce coup imprévu déconcerta cruellement le jeune marquis. Sous le poids d'une accusation de rapt, il ne savait comment expliquer l'affaire à sa famille et à ses amis. Les détails de son aventure étaient si romanesques, si invraisemblables. Les gens du monde ne pourraient y ajouter foi. Nécessairement, l'intéressante Lucile serait compromise. Le nom de cette chaste, de ces douze enfants, serait donc traîné devant les tribunaux et exposé aux mauvais propos des médisants. Armand croyait n'éprouver que de la pitié pour Mademoiselle de Verneuil. Mais c'était une pitié fort tendre, et que la solitude, l'éloignement forcé, augmentaient chaque jour. Il n'osait écrire à Lucile, de peur que sa lettre ne fût ouverte chez le gouverneur et ne révélât le secret de la retraite où la jeune fille vivait cachée. Monsieur de Martigny vint plusieurs fois le visiter et lui annonça qu'il espérait terminer tout ce différend à l'amiable. Deux semaines s'écoulèrent ainsi. Il y avait eu un combat en règle entre le corps des notaires, qui tous prenaient fait et cause en faveur de Laurenceau, et les parents du marquis, secondés par une foule de membres du Parlement. La victoire resta enfin à ces derniers. Contre la règle presque ordinaire, le bon droit triompha. Avec quelle impatience Armand parcourt la route qu'il a suivie 15 jours auparavant. Les 4 lieues qui le séparent de sa maison de campagne semblent s'allonger à mesure que le carreau s'éloigne de Paris. Cependant, le trajet est terminé. Voilà la grille du jardin. Véronique paraît et dit en joignant les mains « Ah, monsieur, que je sois aise de vous revoir. Cette pauvre demoiselle pleurait comme une vraie madeleine. Ça aurait attendri des pierres, quoi. » Le marquis remercia sa nourrice d'un regard affectueux et s'élança vers la maison. Dans un petit salon au rez-de-chaussée, il trouva Lucile, qui, rêveuse, tenait la tête languissamment penchée. Au bruit des pas d'Armand, elle tressaillit, et en apercevant M. de Montréal, elle ne put réprimer un mouvement de surprise et un cri de joie. « Mademoiselle, dit le marquis, j'ai d'excellentes nouvelles à vous apprendre. Nous avons triomphé de M. Laurenceau. Ce méchant homme, qui avait obtenu contre moi une lettre de cachet, a cessé d'être votre tuteur. L'odieux Bourdin ne vous poursuivra plus de ses projets de mariage. Vous êtes libre. Le meilleur ami de votre père s'est chargé de vous protéger désormais, et cet ami, il m'a accompagné, le voici. » En ce moment, M. de Martigny parut. Lucile se précipita vers lui et tomba à ses pieds. M. de Martigny la releva et l'embrassa avec effusion. Le marquis contemplait d'un air ravi ce touchant tableau. « Monsieur, dit-il, vous êtes maintenant le père de Mademoiselle de Verneuil. Daignerez-vous m'accorder sa main ?» Le conseiller répondit en regardant la jeune fille. « C'est à Lucile qu'il faut vous adresser, monsieur le marquis, si elle vous pardonne de l'avoir enlevée. Je lui dois une éclatante réparation. Mademoiselle, voulez-vous me permettre de vous ramener à Paris avec le titre de marquise de Montréal ?» Lucile, détournant son visage empreint de rougeur, articula faiblement ce mot. Armand lui prit les mains et les couvrit de baisers en s'écriant « Vous m'aimez donc ? Je vous ai attendu si longtemps. » Ainsi s'achève une lettre perdue par Alfred des Essarts.